RMC,
entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, alors que la saison des doublons bat son plein, voici que ressurgit inévitablement le spectre d'un championnat d'élite réduit à 12 clubs. Alors serait-ce la bonne solution pour éviter de trop pénaliser les clubs fournisseurs internationaux? Eh bien nous en débattons dans un instant entre les poteaux, une équipe de choc qui commente, analyse et consulte plusieurs fois par semaine, que ce soit le top 14 comme l'équipe de France. Les doublons, non, ça ne fait pas peur à Denis Charvet. Salut Denis.
Salut messieurs.
Ni à Manu Massicard, le patron de Midi Olympique. Salut Manu.
Salut messieurs.
Et encore moins Wilfried Templier, Nicolas Paolorsi et Pierre Amiche. Nos gifres à nous, jeunes issus de la formation de la radio. Ça va les garçons?
Salut les gars, salut à tous.
Salut.
Dans votre podcast rugby préféré, nous évoquerons également le frelon de la semaine, l'ouvreur bordelais Mathieu Jalibert. Énorme cette semaine, alors va-t-il enfin avoir sa chance en bleu? Et à quel poste? Là aussi on se pose la question. Enfin à Castres, si les entraîneurs passent le sentiment d'être mal aimés, demeure. Pour preuve, la sortie de Mauricio Reggiardo qui s'en prend aux médias qui brocardent leur manière de jouer. On en parlera tout à l'heure dans la boîte à gifs. Mais tout de suite, messieurs, il est l'heure d'entrer au casque car voici la première mêlée des poteaux.
Action, liège, jeu.
Alors si les temps sont durs pour tout le monde, ils le sont peut-être encore un peu plus pour les gros clubs, ceux qui fournissent, sans compter en cette période de doublons, de la main-d'œuvre qualifiée à l'équipe de France. Parmi ces clubs, le plus impacté semble être, Wilfried, le Stade Toulousain impérial avant l'ouverture de la saison internationale et qui, en trois semaines, a perdu une grande partie de sa superbe.
Ouais, le Stade Toulousain a déjà laissé des plumes. Hein. Il y a eu trois mois de jouer en doublon, voire en faux doublon, hein, comme ce week-end. Il n'y avait pas de rencontre mais pour le 15 de France, mais les internationaux étaient gardés à Marcoussis. Et donc, sur ces trois matchs, Toulouse en a perdu deux et a fait un match nul. Donc, une défaite à domicile contre Lyon, la première depuis deux ans, hein, Ernest Vallon, et quasi 50 points encaissés un dimanche soir en prime time, qui plus est, au Stade français. Bah, résultat au classement, dégringolade de la première à la quatrième place. Et encore, messieurs, c'est en trompe-l'œil parce que les Toulousains, ils ont joué deux matchs de plus que le Racing et Toulon, qui sont seulement à deux petits points derrière. Donc Toulouse est potentiellement sixième. Hein. Ça peut faire de la première à la sixième place. Samedi, donc match nul face à Castres. Mais dans la bouche de Maxime Médard, écoutez, c'est comme une défaite, lapsus révélateur.
Ça reste un derby perdu. Enfin, ça reste un derby, on va dire, match nul. Mais comme c'est chez nous, on va dire que c'est perdu. Honnêtement, c'est perdu. On sort de deux matchs, deux défaites. Il fallait qu'on gagne à tout prix aujourd'hui. Donc... forcément, c'est décevant, mais on n'a rien lâché, on a continué, même si ça a été difficile.
Alors, sans les Dupont et Tamakouramo, c'est pas mal de blessés, hein, dont Colby, il faut le souligner, bah, les standards toulousains sont revus à la baisse. On s'en rend compte quand on écoute un des entraîneurs, Clément Poitrenneau, après le match.
Bah, j'ai senti le groupe quelque part un peu soulagé, malgré tout, de ne pas avoir perdu. Voilà, comme je l'ai dit, il faut essayer de bâtir sur le positif. Le positif, c'est qu'on sort de deux défaites. Aujourd'hui, on n'a pas perdu. On a senti les garçons s'engager fort, avec beaucoup de volonté, ce qui n'a pas forcément été le cas la semaine dernière. Donc, on va dire qu'on est en progrès.
Soulagé d'avoir fait match nul, vous imaginez. Ben voilà les gros clubs qui baissent la tête et qui serrent les dents. Le Racing a plus que limité la casse. Les Franciliens ont certes perdu à Castres, hein, dans ces trois matchs, mais avec leur victoire au Stade français, celle à domicile face à Pau samedi, même s'ils sont passés très près de s'incliner, hein, où ils ont dû faire jouer en plus Ben Arrou, ce talonneur, ben ils avancent au classement. Et troisième pourvoyeur, Montpellier a vu deux matchs de suite être reportés pour cause de Covid. Attention tout de même le week-end prochain à Bayonne, puisque les hommes de Xavier Garbajosa seront toujours privés des Aouas, Willem C, Vincent Auboutier, mais en plus, ils sortiront de trois semaines sans jouer. Pas facile la vie de gros bras de ce top 14 pendant les doublons. Et imaginez, ça va recommencer cet hiver avec le prochain tournoi destination.
Messieurs, le problème n'est pas nouveau. Hein. Toulouse a toujours beaucoup donné à l'équipe de France et s'en était plutôt bien sorti jusque-là, les années précédentes. Comment expliques-tu, Denis, que cette année, ça ne soit plus le cas pour Toulouse?
Ouais, c'est difficile parce que si tu te réfères au match de dimanche dernier, il y a peut-être 7 titulaires ou 8. Je regardais un petit peu la composition de Toulouse. Devant, il y en a 5 titulaires en puissance avec Elstadt, Tecori, Arnold, Movaca,
Keino.
Donc, il y a du lourd quand même, tu vois. Et derrière, il y a qui tient le centre de l'attaque avec Holmes qui a souvent joué ouvreur.
Guitoun,
avec Médard quand même, qu'on ne présente plus. Et Lebel qui est pratiquement titulaire. Donc, là, je pense que sincèrement, ils traversent une période qui n'est pas la meilleure et que ce n'est pas forcément dû qu'au doublon. Voilà, il y a du doute, il y a des enchaînements de matchs qui ne sont pas digérés, peut-être des défaites qui ne sont pas digérées et puis une préparation qui a été tronquée. Donc, on peut tout mettre dans le même sac, mais en même temps, Toulouse ne peut pas
Avant l'ouverture de cette période internationale, Manu, quand même, Toulouse marchait sur l'eau et marchait sur ses adversaires.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure.
Mais Toulouse avec ses internationaux.
Oui, exactement. Et puis Toulouse avait aussi un calendrier qu'on peut considérer favorable quand les autres étaient beaucoup plus impactés par les... par le Covid. Toulouse au complet sur la dynamique du début de saison, ça a été très 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 impressionnant. Quand il te manque Ntamack et Dupont, c'est plus du tout la même équipe. Je suis désolé pour les autres, mais ces deux joueurs-là sont aujourd'hui hors normes et ils manquent terriblement à Toulouse.
Ouais. Après, ils n'ont pas joué tout le temps ensemble la saison passée, Manu. Donc,
non, je te parle de cette saison, Denis.
Oui, cette saison, mais je veux dire, la saison dernière, ils ont quand même fait une grosse saison aussi.
Ouais, mais ils ont pris une nouvelle dimension cette année. Wilfried peut en témoigner. C'est pas le même stade toulousain. Aujourd'hui, ces joueurs-là sont vraiment hors normes. On le voit en équipe de France et ils pèsent énormément sur le jeu toulousain.
Ouais. Alors, le stade...
Vous imaginez l'impact de ces joueurs ? Non, on s'est extasié.
Ouais, mais bon,
sur
les années précédentes.
Non, mais Wilfried,
moi, je veux bien, mais
autant de Toulousains en équipe de France.
T'as vu le réservoir qu'ils ont, surtout. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, moi, je suis Toulousain dans l'âme, mais il faut pas se cacher non plus sur l'effectif qu'ils ont, qui est beaucoup plus fort que d'autres clubs, quand même. Ouais. C'est une vérité, ça.
Alors, le stade privé de sa charnière, de sa première ligne, au Racing, c'est pas mieux, puisque le pilier Benarous a dû se reconvertir au talonnage, alors que Galtier, on le rappelle, a retenu les deux talons franciliens. Il n'y aurait pas, là aussi, des règles à établir, Manu, un seul joueur par poste et par club, par exemple. Parce que là, franchement, prendre les deux talonneurs du Racing et être obligé de faire jouer un pilier au talonnage, c'est quand même pas commun.
Mais tu sais, à Toulouse, t'avais Marchand, t'avais Mouaka, t'avais les deux piliers. Tu as les mêmes problèmes. Si Toulouse est pour revenir à Toulouse, s'ils sont aussi en difficulté, c'est que il y a une conjonction de matchs qui était un petit peu délicate à gérer. On a eu le Stade français plus Castres en suivant. Le staff a fait des choix sur le Stade français qui ont projeté le club dans la difficulté et qui ont accéléré les difficultés en voulant ménager une partie de l'effectif pour le tenir sur Castres. Et final, Toulouse a explosé en vol, on l'a vu à Paris. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est une vraie réalité. Et ça ne doit pas à l'équipe de France à proprement parler.
D'accord. Alors, une situation qui agace évidemment les patrons des clubs impactés, à l'image de Didier Lacroix, le président toulousain, qui il y a quelques jours dans le journal Le Parisien a exprimé sa frustration. Il faut combattre cette situation, disait-il, trouver des solutions. Nous ne devrions jamais avoir à faire un choix entre notre club et l'équipe de France. Nous devons traiter de sujet, c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris du diffuseur, qui n'a pas toujours le spectacle qu'il attend. Et de poursuivre, les Anglais ont trouvé leur équilibre. Comme chez eux, il faudrait une élite à 12 clubs, cela libérerait 4 à 5 dates. On pourrait ainsi sacraliser l'équipe de France, quitte à organiser une compétition supplémentaire comme la Coupe de France ou le Challenge Yves du Manoir. Denis, est-ce que tu comprends le désarroi de Didier Lacroix et est-ce que tu es d'accord avec ces solutions préconisées ?
Je suis totalement désaccord avec lui, même si j'adore Didier. De toute façon, c'est en fonction des intérêts de chacun. Voilà, je pense qu'ils aussi ils prônent leurs intérêts, ils défendent leurs intérêts, je le comprends, mais après, ça n'aurait pas de sens voilà, de faire une Coupe de France à côté. On a connu déjà, j'ai connu en tant que joueur, le Challenge du Manoir ou la Coupe de France, ça n'a aucun intérêt. Voilà,
on continue comme ça, Denis, alors ?
Non, mais je ne dis pas qu'on continue comme ça.
Moi, je vous ai déjà entendu, Moscato, amputer... je ne suis pas d'accord avec
non,
vous.
Mais amputer le championnat. Non, amputer le championnat. On n'ampute pas le championnat. On n'ampute pas le top 14 pour en faire une compétition qui n'aura aucune saveur à côté, c'est ce que je dis.
Mais d'accord. Alors les dimanches soirs qu'on a fait dernièrement, Toulouse-Toulon 25-0 à la mi-temps, Toulon il venait là avec une équipe remaniée, 50 points pour le Stade français face à Toulouse, mais quand un jour messieurs, quand Canal+, quand les diffuseurs en auront marre de ça, de voir ces matchs sans enjeu, et quand la poule aux œufs d'or à 90 millions d'euros par an, elle sera plus là, on fera quoi pour le rugby
professionnel ? Surtout Wilfried,
ce n'est pas possible.
Wilfried, juste une observation, si tu passes à un top 12, c'est 50 matchs de moins par an pour le diffuseur Canal. Tu penses vraiment que la poule aux œufs d'or à 90 millions d'euros, ils vont continuer à mettre autant d'argent ? Non. Et en plus, l'autre
mais
question.
Mais non, mais
que
un championnat qui donne un champion à la fin, où on enlève les phases finales. Alors les mecs veulent pas, pas les phases finales.
Culture, ça,
donne le titre sur un championnat régulier, tu verras, les doublons, il n'y en aura plus. Enfin, des impasses, il n'y en aura plus.
Ah, mais tu peux pas mélanger et doublons et impasses, parce que pour moi, il y a quand même des impasses qui sont faites, même hors période de doublons. Et l'autre truc, c'est les doublons, c'est quand même une immense hypocrisie. Je veux dire, je suis entièrement d'accord avec Denis. Toulouse, ou le Racing, ou Clermont, ou toutes les grandes équipes, ils ont pris les meilleurs joueurs. Ils ont pris les meilleurs joueurs. Ils sont allés les chercher parfois en Pro D2. Ils n'ont pas formé tous les joueurs qu'ils ont présents dans leur club. Donc au bout d'un moment, demande à Agen, à Brive.
Toulouse, ils en ont formé pas mal. Hein.
Toulouse, c'est vrai, c'est une exception. Cette génération toulousaine, c'était pas vraiment le cas les années précédentes. Et surtout, demande à Castres, à Brive ou à toutes les petites équipes. Qu'est-ce que vous préférez, avoir un joueur de l'équipe de France 10 matchs par an, ou vous préférez avoir votre effectif normal et galérer toute la saison ? Mais moi, je connais leur réponse. Je préfère avoir un joueur exceptionnel, mais l'avoir 10 matchs match et peut-être galérer un petit peu, essayer de bricoler quand il n'est pas là, que l'inverse.
Mais c'est un problème de riche. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un problème de riche. Après, le Wilfried ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, les doublons, je suis totalement contre les doublons. Le problème, on va reposer le même problème chaque fois, c'est le problème du calendrier. Donc, on est victime de ce calendrier-là international. Mais moi, la solution, Wilfried, je ne l'ai pas.
Mais, moi, je l'ai. Ça fait des années que ça dure, Denis. Et tu crois que les supporters toulousains, ils n'ont pas envie de voir Dupont et Ntamack sous maillot de leur équipe?
Évidemment que je pense à eux aussi.
Il a joué 4 matchs, Dupont, l'année dernière.
Le diffuseur, n'en parlons pas. Les téléspectateurs, devant leur télé, préfèrent voir Romain Ntamack avec Dupont face à.
Bien sûr.
Que de les avoir.
Wilfried, le supporter rochelais. Le supporter rochelais, il préfère voir ses joueurs beaucoup plus souvent. Il préfère un top 14 plutôt qu'un top 12. Le supporter rochelais, comme d'autres supporters de club, il préfère voir leur équipe le plus régulièrement possible plutôt que d'avoir un nombre de matchs comptés.
Non, mais quelle est ta solution, Wilfried?
Vraiment équilibré, vraiment.
Non, mais
séduisant,
il a une solution.
Il n'y a pas des matchs un peu pourris que vous évitez.
Mais Pierre, t'as dit les impasses, ça sera toujours le cas, les impasses. C'est pas le doublon. Il faut arrêter.
Non, enlève les phases finales.
Non, mais il faut arrêter
C'est une vraie question. Moi, je suis pas pour.
Enlève les phases finales. Donne le titre au premier. Et là, il y aura plus de.
Alors, tu enlèveras la culture. Non, mais l'essence même. On t'enlèvera tout le charme du rugby. Mais non.
Ou alors, tout simplement. On abroge cette ineptie qui est la Coupe d'Europe actuelle, avec 14 clubs du top 14 qui participent à la Coupe d'Europe. On la réserve uniquement aux vainqueurs de la Coupe d'Europe et aux vainqueurs du championnat de France, ce qui fait qu'au maximum il y a deux équipes qui sont concernées. On mobilise ça sur deux week-ends, demi-finale, finale. On a un joli trophée à la fin, tout le monde est content, mais on fait pas 18 dates incompréhensibles dans la saison.
C'est juste qu'on peut plus avoir ces matchs-là à 50 points de différence à dimanche soir en prime time. Moi-même, fan de rugby et tout, je me dis, mais les gens qui viennent, qu'on l'a déjà parlé, qui regardaient le foot le dimanche soir, maintenant sur Canal ils ont le rugby, ils viennent 25-0 à la mi-temps.
Oui, mais alors tu as vu que les audiences télé elles sont plutôt bonnes, hein, malgré ce pari qui n'était pas quand même gagné d'avance, de se mettre le dimanche soir face au football qui joue sa plus belle affiche également, bon, sur une chaîne qui est pour l'instant confidentielle, mais c'est pour l'instant un pari réussi alors que c'était pas gagné d'avance. Manu, quand même,
c'est la chance du rugby, tu l'as dit, le foot est devenu un produit confidentiel et le rugby en profite. Certes, Wilfried a raison, on ne pourra pas se contenter d'avoir en permanence des matchs à 50 points ou des matchs à 30 points à la mi-temps. Il va falloir avoir un peu plus de densité et de suspense. Mais franchement, Wilfried, j'ai l'impression que même avec un top 12, le rugby français est tellement compliqué que même avec un top 12, on aurait des impasses.
Le top 12, mais les phases finales, il faudra un jour se poser la question.
Ouais, ou alors jouer tous les 4 ou 5 jours.
Jouer plus d'un match par semaine.
Mais jouer un championnat 12 clubs, tu vas aller vers un championnat fermé. Ce qui veut dire que tu n'auras qu'un club
en Angleterre.
Mais non, mais je suis pas absolument contre ça, parce que tu vas avoir un club qui va descendre, tu n'auras plus la concurrence des petits en bas du tableau du bas.
Surtout, tu te coupes, tu flingues la moitié de la France. Tu restes un sport régional. Tu vas vivre dans tes fiefs, dans tes bastions. Et tu vas te couper du Nord. Et surtout, en plus, tu vas flinguer certains de tes bastions.
Tu vas te couper du Nord. Il y a le Racing et le Stade français seront
toujours
là.
Non, mais je parle de Lille, je parle de Strasbourg. Je parle du développement de la Bretagne.
Ils sont au port du top 14.
Non, mais il va falloir qu'on y aille un jour.
Un jour, il va falloir que ça se développe davantage. Il a raison.
Manu, pour essayer de faire un point final sur cette histoire, est-ce que Didier Lacroix est isolé avec sa proposition de passer à 12, ou il a le soutien d'autres présidents de club? Manu,
ça dépend du classement.
D'accord.
Ça dépend des semaines et du classement.
Pierre, tu s'en es bien sorti.
Non, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Bien sûr qu'il y a certains présidents qui sont pour le top 12, mais en bas, ils ne sont pas pour le top 12.
C'est sûr que quand on joue ça sur 8 tous les week-ends, on est quand même plutôt pour le top 14 et même pour
le top
16,
15 ou 16.
Si c'est possible.
Les amis, on parle du top 12, mais allons, faisons descendre 3 équipes l'année prochaine. Tu vas voir le bordel.
Après, je vous dis ça sur les phases finales. On a croisé les Castrés la semaine dernière, Rallier, Jacquet, quand on leur posait la question, touchez pas aux phases finales.
Nous, on adore, c'est l'essence du truc. Comme on est et on continue comme ça.
Et on fera les mêmes débats pendant 10 ans.
Exactement. Ça nous nourrit le débat. Affaire à suivre, évidemment. En attendant, nous, on s'intéresse à notre frelon de la semaine, un certain Mathieu Jalibert.
RMC entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Voilà, le jeune ouvreur bordelais qui a régalé ce week-end. Son début de saison avait été compliqué avec un test positif au Covid qui l'a privé notamment d'un match en équipe de France. Mais samedi, face à Bayonne, il a montré toute l'étendue de son immense talent. Nicolas Paolorsi est donc avec nous. Nico, Jalibert, c'est de la balle, tout le monde le sait. Mais samedi, par sa prestation très aboutie, il s'est rappelé quand même au bon souvenir du sélectionneur.
Ouais, il a en tout cas montré en top 14 que derrière Romain Ntamack, on a une alternative plus que crédible et très talentueuse au poste de 10. Alors, il vient de fêter ses 22 ans, Mathieu Jalibert. C'est l'indiscutable numéro 1 au poste, hein, devant Ben Botica, qui est pourtant un joueur avec de belles références. Urios l'a dit ce week-end, Jalibert, c'est la classe. La vista, l'explosivité, le jeu au pied, les qualités de buteur. La saison dernière, c'était un des meilleurs réalisateurs du top 14. Il a tout, excepté peut-être une faiblesse dans le domaine défensif, mais il progresse dans ce secteur de jeu. Il est en plus formaté pour performer au plus haut niveau, hein, depuis qu'il est tout jeune. Il est arrivé à 18 ans en équipe première. Dans le vestiaire, c'est un leader. Alors, c'est un leader technique, bien évidemment, parce que c'est lui qui a les commandes du jeu, mais c'est aussi un leader par la parole. Par exemple, cette saison, il n'a pas hésité à hausser le ton après la défaite à La Rochelle, où l'UBB était passé complètement à côté dans un derby. L'état d'esprit avait été défaillant. C'est lui qui allait en conférence de presse, c'est lui qui est monté au front, c'est lui qui a dit qu'il fallait que le club se remobilise. C'est un joueur qui est en train de prendre de l'épaisseur, de sa affirmé. Il est en plus déjà revenu de deux graves blessures au genou. La première, c'était avec l'équipe de France. Donc le mental, il l'a. Franchement, on a du mal à lui voir des défauts. Il lui manque une chose désormais, vous l'avez dit, c'est réaliser de grandes performances avec les Bleus.
Voilà, Mathieu Jalibert. En d'autres temps, il serait déjà l'ouvreur titulaire des Bleus. Le problème pour lui, c'est qu'on en a déjà un et qui n'est pas mauvais du tout. Du coup, messieurs, Denis, ça condamne Jalibert à n'être éternellement qu'une doublure de Ntamack?
Alors moi, je vais aller plus loin parce que j'ai eu la chance de l'avoir très jeune, il y a 2-3 ans. 3 ans, il n'avait pas 20 ans avec les Barbarians français contre la Nouvelle-Zélande. Pas la Nouvelle-Zélande, mais l'équipe des Maoris. Et pour l'avoir vu à l'entraînement pendant une semaine, c'est le mec qui m'a le plus bluffé, le plus impressionné de ces dernières années.
Plus que Dupont ?
Ouais, au niveau rugbystique, c'est un talent pur, c'est un diamant, ce mec. Il sait tout faire. J'ai rarement vu un mec aussi doué. Après, je pense qu'il a le mental. On dit qu'il va progresser en défense. Je trouve qu'il est plutôt costaud en défense. C'est l'avenir. Et moi, je le mettrais à l'arrière. Moi, je rêverais de voir.
Sur les ballons hauts, Denis, peut-être que c'est un peu léger quand même.
Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il progresse. Tu sais, les ballons hauts, c'est rien, les ballons hauts. Non, mais c'est vrai.
Demande à Boutier.
Ouais. Mais on ne peut pas se passer d'un talent comme ça. Je pense que
on ne peut pas s'en passer, mais au poste de numéro 10.
Non, aujourd'hui,
en 5-8e, comme font les Blacks ou font les Anglais.
Romain Ntamack, il est indispensable. Après, on voit que Bakatawa, c'est incontournable. Le petit Arthur Vincent, il y a beaucoup de concurrence, mais.
C'est dur, ouais.
Mais après, je te dis, je pense que je serai moi l'arrière. Voilà, c'est mon sentiment.
Manu, ton avis là-dessus ? À l'arrière ou en doublure éternelle de Ntamack ?
Non, pas éternelle, parce qu'aujourd'hui, avec les blessures, ça va très rapidement.
En plus.
Et puis, tu auras besoin d'avoir Carbonel, tu auras besoin d'avoir Jalibert, tu auras besoin d'avoir Ntamack à fond pour 2023, c'est encore loin. J'ai du mal à le voir à l'arrière. Franchement, j'ai du mal. Il faudrait qu'il joue régulièrement en club, d'abord à Bordeaux. Parce qu'il peut pas, et il n'a pas le temps d'apprendre à l'international. Donc c'est un vrai choix de carrière. Il faut qu'il arrive à se fixer. Je le verrais peut-être plus au centre qu'à l'arrière.
Et Nicolas, ce qui est bien, c'est qu'il va peut-être avoir les feuilles de match possibles.
Oui, c'est ça. Là, il n'a pas été appelé face au Fidji. Il n'a pas été appelé face au Fidji. Il reste 3 matchs derrière.
Il va jouer derrière.
Et donc, il va avoir le moyen de montrer son talent. Et il en a. Et réjouissons-nous d'avoir des talents comme ça à l'ouverture, où ça a été un poste qu'on a cherché.
Et il y a le petit Astoy, enfin, je dis le petit, je ne sais pas quel âge il a, mais qui a fait un match énorme avec Pau au Racing, qui est excellent. Donc, on a. On a pléthore de talents sur poste, ce qui est formidable.
Clairement, en défense, il faut qu'il passe un cap. C'est un très très bon buteur, il a un très bon jeu au pied. Pour moi, il est quand même en dessous de la concurrence.
Après, ce qui serait bien, c'est qu'il fasse un peu de Coupe d'Europe, des choses comme ça, ou qu'il ait un peu d'expérience comme ça. Je pense que souvent, c'est pas sûr que le staff actuel donne des blancs-seins comme ça, ou des sélections rapidement comme ça, avec quelques matchs.
Quelques
bons matchs top 14.
Oui, avec Barbarians, mais après. Le petit Carbonel mériterait une sélection aujourd'hui.
Alors les gars, oui, je sais bien.
Si, c'est vrai.
On mérite des sélections, mais on veut une équipe
d'être essayé.
Ça se passe plus comme ça avec eux.
Ah, mais il faut pas changer là. Hein.
Attention,
on reste avec Ntamack là. Vous êtes sûr.
Mais non, mais
tous
il
d'accord
pas jouer après Ntamack après Fidji.
D'accord, mais pour le tournoi qui arrive, les matchs de l'automne cup.
Évidemment qu'on reste avec Romain Romain.
De toute façon, il y a une hiérarchie. Il faut regarder la liste des 31. Il faut regarder comme ça. Ceux qui sont là, c'est ceux qui vont jouer après et qui ont été là depuis le début. Appelés de temps en temps, c'est ceux qui vont jouer après. Ils vont pas sortir quelqu'un du chapeau comme ça. Jalibert est là au rassemblement. Il a fait des. Il connaît l'environnement. Donc c'est lui qui va jouer après Ntamack. Donc il aura sa chance.
Moi, je pense que c'est un pur numéro 10, les gars, Mathieu Jalibert. Franchement, sur la capacité de relance, oui, il a des qualités dans l'explosivité, mais dans l'animation du jeu, ce qu'il propose, dans la lecture du jeu au poste de 10, franchement, c'est impressionnant. Et je le trouve des fois plus créatif que Romain Ntamack. Alors, on va pas opposer les deux joueurs, mais je trouve qu'au niveau offensif, Jalibert a une variété dans son jeu qui est incroyable. Il est capable de tout faire. Il est capable. Ouais, plus explosif, exactement. Mais dans la lecture du jeu au poste de 10, franchement, il est aussi fort pour moi qu'à Ntamack.
Mais la première idée de Fabien Galthié, la première idée, c'est de mettre Jalibert à l'ouverture et Ntamack au centre. Oui, il se trouve que Romain a explosé à l'ouverture son statut d'ouvreur international.
Oui, mais en plus, Ntamack et Dupont ont l'habitude de jouer ensemble en club.
C'est Romain qui a chamboulé tout, parce que la première idée de Fabien, c'était d'installer les deux.
Très bien.
Et Romain Ntamack, il a plus de maîtrise, il a plus de un peu plus de bouteilles.
Mais c'est lui qui se l'est gagné.
Jalibert, je veux bien voir en Jalibert un surdoué de l'attaque, mais l'autre, il est quand même un cran de grand pour moi.
Et surtout, Jalibert, c'est un bébé, hein, on le rappelle, hein, c'est que 22 titularisations en 4 ans, il a eu des blessures, etc. Mais je veux dire, en termes d'expérience pure, évidemment, Romain Ntamack est pour l'instant largement devant, ça sera peut-être plus le cas dans 2 ans.
Il est l'heure, en cette saison automnale, de distribuer quelques poires marrons et autres châtaignes. Voici la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux,
la boîte à gifles.
Lorsqu'il était le pilier des Pumas, il y a une quinzaine d'années, Mauricio Reggiardo n'hésitait pas, lorsqu'il était besoin, à sortir la boîte à gifles. Reconverti comme entraîneur, il n'a rien perdu de sa superbe. J'en veux pour preuve cette sortie samedi après le match nul obtenu par le Castres Olympique sur la pelouse du Stade Toulousain.
Nous, aujourd'hui, on est une équipe dure à jouer. Oui, on est pénible, oui, c'est un synonyme. On est âpre, oui. On est rugueux, oui, on est rugueux. C'est notre rugby, c'est notre identité. Ne me trichez pas. Il me semble que vous, les journalistes, vous confondez un peu entre être très dur, jouer à la limite et tricher. Ne trichez pas. À Castres, ne trichez pas. On veut être très, très dur. Ça, c'est le rugby aussi. C'est les fondamentaux du rugby. Nous, on défend les fondamentaux du rugby. Et aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. Je veux que mon équipe joue comme ça. Parce que mon club, il a une identité et on la respecte. Mais on ne trichez pas.
Voilà, on triche pas.
Ça
veut dire quoi, tricher, au fait?
Alors, je ne sais pas. Wilfried, tu as commenté le match, tu as assisté à cette conférence de presse. Ils s'en prenaient à qui et pourquoi? A priori, c'est Sébastien Chabal qui était visé, c'est ça?
Mais il n'est
pas journaliste. C'est pas un journaliste, Chabal.
Canal Rugby Club, des consultants. Alors, eux se défendaient d'avoir employé le mot tricher. Ouais, il a passé son petit message, Mauricio. Là, c'est aussi politique. C'est aussi défendre son club. C'est aussi la manière de faire au Castres Olympique, hein, où depuis
c'est
des années on se défend un peu de choses, d'être un peu les mal aimés ou de pas être. C'est, ça a été parfois vrai, hein, de pas être.
Ça a été vrai, oui, tu as raison. Bien sûr.
Ouais, qu'on les considère pas à leur juste valeur, parce que c'est quand même deux titres sur la dernière décennie, et c'est une équipe pas facile à jouer, et des fois on prêtait pas attention au Castres Olympique ou on dévalorisait un peu le truc. C'est leur jeu d'être comme ça, d'être dépénible, ils le répètent et ils aiment ça.
Mais il est où son message, son message? Quand il dit je triche pas, mes joueurs ne trichent pas, mon équipe ne triche pas, c'est dans le comportement ou c'est sur le terrain? Parce que dans le comportement,
ils en ont pris 60 à La
Rochelle. Moi je cherche la réponse.
Il a parlé de ça aussi. Il a dit on a joué à La Rochelle, on a pris 11 pénalités en mêlée, on n'a pas simulé une seule. Ils étaient avec 3 piliers sur la feuille de match parce qu'ils avaient 25 joueurs à l'entraînement dans la semaine. Donc ça, il avait raison de le souligner. Et derrière, ils se sont retapés entre eux. Ils ont fait un bon match à Toulon. Ils ont battu le Racing. Ils viennent chercher le match nul au Stade Toulousain.
Donc c'est une équipe qui respecte la règle, c'est ça?
C'est ce qu'il a dit. Après, il a des coquins sur le terrain, mais ça fait partie du rugby.
Je pense que Mauricio, il a été très vexé et très, meurtri par le début de saison, et que là, c'est une espèce de revanche intérieure.
Urios faisait les mêmes sorties lorsqu'il était entraîneur de Castres.
Et puis en même temps, ils sont revenus à ce qu'ils faisaient de mieux. Quoi. Voilà, c'est leur ADN. Je suis désolé, mais la culture à Castres a toujours été la même chose.
Denis, les entraîneurs qui ont du mal à supporter les critiques, surtout lorsqu'elles émanent d'anciens joueurs, qu'ils soient du club ou non. On a vu le cas en foot cette semaine, avec les anciens Marseillais qui ont défoncé la prestation marseillaise en Ligue des Champions. Denis, si les consultants n'ont plus droit à la critique, les temps vont devenir durs pour toi et tes copains quand même. Hein,
ouais, moi, j'ai toujours critiqué quand il fallait critiquer. Mais je veux dire, il faut... Puis de bon, c'est quand même notre job, on a le droit de critiquer. Mais après, il faut trouver les mots. Il ne faut pas être non plus, buté. Ce que dit Mauricio, je comprends un peu son énergie. énervement. Voilà. Après, il faut aussi que ces mecs-là, ils sont toujours dans la paranoïa. Donc, il faut qu'ils prennent un peu de recul.
C'est un métier difficile de dire.
Non, mais c'est que du sport.
Ils s'en servent
ouais, de moteur. De moteur,
pour raison.
Bien sûr.
C'est un jeu. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est un jeu. Et c'est ça. Et parfois, ça leur sourit, parfois, ça leur sourit moins.
Ok, tout de suite, voici Côté Fermé, les dernières infos de la planète rugby.
RMC, entre les poteaux.
Côté Fermé.
Nico, on va prendre des nouvelles d'Agen, on le sait, ils étaient en autogestion cette semaine. Bon, ils ont perdu, mais ils ont fait quand même un match courageux. Qu'en est-il du staff? Est-ce qu'il va y avoir un staff et quand?
Alors oui, il va y avoir un nouveau staff, mais ce ne sera pas pour cette semaine. Agen qui joue Toulon ce week-end à 17h30. Et Jean-François Fontenot, le président, nous a confirmé hier que le staff arriverait juste après ce match-là, parce que c'est trop court pour lui de mettre un staff en place qui ne connaît pas le groupe, qui ne connaît pas les joueurs avant ce match face à Toulon. Donc ils vont encore être en autogestion cette semaine, hein, avec l'entraîneur des espoirs, le préparateur physique. Il y a également les joueurs qui sont blessés, qui prennent pas mal d'ateliers individuels. Je pense à Raphaël Lagarde, l'ouvreur qui s'est occupé de la ligne de trois quarts cette semaine, donc ils vont rester dans ce mode-là, sachant que tu l'as dit, ils ont été plutôt solides hier les Agenais, hein, face à un bon Lyon, donc au moins ils ont relevé la tête et ils sont plutôt sur une dynamique un peu plus positive que ces dernières semaines.
Et c'est encore Fontenot qui va donc faire la compo pour le week-end prochain.
C'est possible, c'est possible. Alors il est entouré, hein. On n'est pas dans le rugby des années 90 où c'est le président quand même qui dit tu te mets là, tu te mets là. Il est entouré par pas mal de techniciens, mais c'est vrai que c'est lui qui fait les derniers choix quand il y a un doute.
C'est que Jean-François, il a joué avec Vincent Moscato au Zbuk.
Ah ouais.
Oui, il était joueur, il y est.
Et voilà. Dans le middle de ce lundi, Manu, beaucoup d'infos évidemment comme d'habitude, avec une très belle interview notamment de Radradra, hein, le joueur incroyable qui est désormais capitaine de l'équipe des Fidji, que l'équipe de France va affronter. Longue et belle interview, c'est rare, hein, de l'entendre s'exprimer justement à propos notamment de sa carrière, de sa jeunesse comme jeune joueur de rugby.
Ouais, c'est rare, c'est très rare, sa parole est... même quand il était à Bordeaux, il ne parlait pas beaucoup. Hein. C'est un taiseux, comme on se plaît souvent.
On attend toujours
à le dire.
Qu'à Nico Paolo Orsi réussisse à l'interviewer. Hein. Ça, on peut toujours compter, je pense.
Mais il va y arriver cette semaine. C'est l'occasion pour lui de revenir sur son expérience en France, évidemment, de nous raconter un peu le rugby fidjien et puis aussi de se projeter sur un duel qui est sympa, quoi, contre Virimi Vakatawa, son futur adversaire. Donc tout ça, c'est à lire dans Middle.
Il ne le juge pas pour avoir choisi finalement la France plutôt que les Fidji. Hein. Il dit que bon, il a fait son choix, mais il lui en veut pas d'avoir fait ce choix-là.
Je sais pas s'il aurait fait la même chose. Tu vois, bon. Radradra, il a beaucoup bougé en club aussi, hein, alors que Vakatawa est pour le moment assez fidèle à ses engagements avec le Racing. On verra si ça continue l'année prochaine. Mais aujourd'hui, Vakatawa, c'est l'homme du Racing. Radradra, lui, est resté fidèle au maillot fidjien pour l'instant. Je crois que maintenant c'est joué, hein, pour la suite de sa carrière. Le duel promet.
Ouais, ça promet. On va se régaler. Ce sera dimanche à 16h15 à Vannes, hein, pour malheureusement sans public, pour ce match donc entre la France et les Fidji, qu'on suivra évidemment sur RMC avec Denis, avec Wilfried, avec toute l'équipe. Merci messieurs. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast consacré au rugby. Bonne semaine à tous.